Voilà, et on passe maintenant à la séquence Les Voix de l'Alma, l'émission des libraires montalbanais, avec cette semaine Jacques Griffaut. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Philippe Bernadou de la librairie de Loche, bonjour.
Bonjour.
Et Hugues Dedi, bonjour Hugues.
Bonjour.
Pour plus nous parler, mais ça en fin d'émission tout à l'heure, d'un artiste tarné-garonnais, il est tarné-garonnais, hein, Babar, non?
Babar, je ne sais non. pas, en tout cas il habite Montauban depuis pas mal d'années.
Vous nous parlerez tout à l'heure de l'expo qui a lieu en ce moment même à la Mémoire et jusqu'à la fin du mois. On commence par le coup de cœur de Jacques Griffaut, Mud Woman.
Oui, Mud Woman, c'est un livre de Joyce Carol Oates qui est une américaine qui est née dans l'état de New York en 1939. C'est un auteur qui est extrêmement prolifique puisqu'elle publie 2 à 3 livres par an. Non seulement des romans mais des essais, de la poésie et autres. Elle écrit tout le temps, tout en conservant tout de même son poste de professeur de littérature à l'université de Princeton, qui est une prestigieuse université du New Jersey. Alors qu'est-ce qu'elle a écrit? Ben, si je vous dis les titres, je pense que ça vous dira quelque chose. Elle a écrit Les Chutes, elle a écrit La fille du fossoyeur, elle a écrit Fille noire, fille blanche, etc. Dans ses romans, qui sont souvent inspirés par des faits divers, parus dans la presse, elle s'attaque aux dérives de la société américaine, elle dresse le tableau d'une époque qu'elle juge totalement détraquée, elle observe les turpitudes de ses contemporains. Elle le dit, elle écrit sur le mal. Car pour elle, elle dit que l'un des moteurs de la littérature, ça consiste à confronter la part civilisée des hommes à leur part de sauvagerie. Donc la question du mal est omniprésente dans ses romans. Alors le mal, c'est la part d'ombre en chacun de nous, mais ça peut conduire aussi, qui peut conduire au chaos, c'est les passions dévastatrices, c'est la guerre, c'est la violence. Mud Woman, donc le livre dont je vais vous parler, qui est son dernier roman traduit en français, est considéré par l'ensemble de la critique et des lecteurs comme un de ses meilleurs. Le magazine Lire, d'ailleurs, qui fait chaque année un palmarès, vient dans son dernier numéro de la classer comme meilleur livre étranger. Le livre commence en 1965. Nous sommes dans les marécages des Adirondacks, c'est un massif du nord-est de l'État de New York. Une mère démente vient d'abandonner sa petite fille dans un marécage, ou plutôt va l'abandonner. Ce n'était pas la première fois que l'ange de Dieu lui était refusé, mais ce serait la dernière. Avec un rire amer, la femme dit « Tiens, je te la rends, comme tu me l'as ordonné, je te la rends. » D'abord Dolly. La femme arracha Dolly au doigt de l'enfant et jeta Dolly dans la boue. « Tiens, voilà la première. » La femme parlait gaiement, durement. La poupée en caoutchouc gissait dans la boue, l'air stupéfait. Ensuite l'enfant. La femme enserra l'enfant dans ses bras pour la précipiter au bas de la langue de terre et dans la boue. L'enfant s'accrocha à elle, n'osant crier que maintenant « Maman, maman !» La femme détacha les doigts de l'enfant et la poussant à coups de poing et de pied, la fit rouler dans la boue luisante au bas de la pente abrupte, tout près de la vilaine poupée de caoutchouc. Et là l'enfant battit l'air de ses bras maigres et nus, à plat ventre maintenant, son petit visage stupéfait enfoncé dans la boue qui étouffait ses « Maman !» Et sur la berge au-dessus, la femme chercha frénétiquement quelque chose, une branche d'arbre brisée, pour en frapper l'enfant, car Dieu est un Dieu miséricordieux. Il n'aurait pas voulu que l'enfant souffre, mais la femme ne put atteindre l'enfant et de dépit jeta la branche sur l'enfant, car tout son calme l'avait quitté, elle était maintenant haletante, hors d'haleine, sanglotante. Et à présent, bien que la vilaine poupée de caoutchouc restât là où elle était tombée à la surface de la boue, l'enfant agité était aspiré par la boue, une boue froide, bouillonneuse, que le soleil ne réchauffait guère. Une boue qui pénétrait dans la bouche de l'enfant, et qui pénétrait dans les yeux de l'enfant, et qui pénétrait dans les oreilles de l'enfant. Jusqu'à ce que finalement, il n'y eut plus personne sur la langue de terre au-dessus du marais pour la regarder se débattre, et pas d'autre bruit que le cri des corbeaux outragés. Bon, le livre ne va pas être toujours, rassurez-vous, de cette tonalité noire, mais vous avez vu qu'il y a une écriture qui est absolument superbe. Et on a parlé dans la dernière phrase du cri des corbeaux outragés. Eh bien, c'est le roi des corbeaux, justement, qui va signaler sa présence à un petit braconnier qui va donc recueillir cet enfant avant que la boue n'ait pénétré trop profondément dans sa bouche et dans ses yeux. Elle va être placée dans une famille d'accueil, puis adoptée par un couple de Quakers qui veulent faire d'elle un enfant modèle. Elle suivra des études brillantes, elle enseignera et elle deviendra la première femme présidente d'une université de l'État de New York. Elle s'appelle Meredith Ruth Neukirchen, tous l'appellent MR, Meredith Ruth par ses initiales. Au moment même où commence le roman, c'est la guerre d'Irak. Elle est présidente de cette université, elle a l'intention de dénoncer l'intervention américaine en Irak dans un discours inaugural très attendu qu'elle doit prononcer devant un auditoire de 1500 personnes. sur le thème du rôle de l'université dans les temps de patriotisme. Mais quelques heures avant sa prestation, elle prend sa voiture, sans prévenir personne, et roule. Le lecteur se doute bien qu'elle veut retourner dans les marécages des Adirondacks, car « nous chérissons plus que tous ces lieux où nous avons été conduits pour mourir, mais où nous ne sommes pas morts ». Elle avait décidé de rouler 1h30, elle roule plus longtemps, elle aurait pu faire demi-tour, mais elle continue de rouler, comme entraînée dans un élan irrésistible, elle va donc rater l'heure de sa prestation qu'elle devait faire. Cette femme seule a un amant secret qu'elle voit trop rarement. Il est marié, il est universitaire, il est important, il n'est pas très disponible. On découvre une femme qui est apparemment sûre d'elle, battante, parce qu'elle doit se battre à l'université contre le conservatisme, le machisme aussi. Elle est ardente, elle est éloquente, elle est idéaliste. Voilà son portrait. Emer avait été une administratrice brillante, du moins jusque récemment. Précisément parce qu'elle n'était pas mariée, n'avait pas de famille, ni de vie conjugale qui la distrait. La solitude l'avait galvanisée, ainsi qu'une volonté farouche d'aller de l'avant, comme on avancerait sur une planche très étroite au-dessus d'un terrain furieux. Peut-être était-elle tombée amoureuse d'André Livtovic, parce qu'il était inaccessible. Peut-être son amant secret était-il le principal moteur de sa vie adulte. Alors on va la suivre. Et on va voir que petit à petit, elle dérape car elle était vulnérable. Elle est rattrapée par ce passé qui la hante, qui lui colle à la peau et qui lui fait donc petit à petit perdre pied. Mais au-delà de ce portrait, tout en finesse, il y a une attaque virulente contre l'université. Ce monde que l'auteur connaît bien, parce que je vous ai dit qu'elle était toujours en poste à l'université de Princeton. Et on peut penser qu'il fait penser, ça fait penser à un roman de David Lodge. Vous savez, c'est le fameux roman. Il y a des scènes d'anthologie. Il y a un dîner, par exemple, au terme de sa première année de présidence. Elle rassemble chez elle les trustees, les membres de son conseil d'administration. Elle va arriver avec 10 minutes de retard. Elle affronte le regard dur des participants qui lui reprochent, entre autres, d'avoir refuser une donation importante, plusieurs millions de dollars, au prétexte que cette donation était faite par le troisième fournisseur mondial de gaz qui est responsable de catastrophes environnementales. Mais ça, les trustees ne l'acceptent pas. C'est un livre d'une densité exceptionnelle qu'on ne quitte pas. Quelques critiques américaines, très vite, glaçant, superbement écrit, un roman noir, intelligent et profondément captivant. Joyce Carol Oates à son meilleur. Joyce Carol Oates est un écrivain dangereux au meilleur sens du terme. Un écrivain qui prend des risques de manière presque obsessive avec vigueur et délectation. C'est un roman que je vous recommande vivement et encore une fois qui a obtenu vraiment toutes les louanges de la critique unanime.
Mud Woman, l'autre coup de cœur, c'est un coup de cœur plus gai, hein,
plus optimiste. Disons. Philippe Bernadou. Je continue comme j'ai fait depuis le début du mois à choisir des livres plutôt cadeaux. Plutôt des beaux livres. Il s'agit du livre qui s'appelle « Vert, histoire d'une couleur » de Michel Pastoureau. Je suis chaque fois fasciné par l'extraordinaire érudition de Michel Pastoureau. C'est un historien qui est spécialiste des couleurs, des emblèmes et du bestiaire, bestiaire médiéval. Je vous conseille au passage la lecture d'un de ses livres qui s'appelle « L'ours, histoire d'un roi déchu », qui est un livre formidable, surtout dans nos régions où on parle beaucoup de l'ours, n'est-ce pas ? Après deux ouvrages qui ont fait date sur le bleu et le noir, toujours dans cette série « Histoire d'une couleur », il s'attaque aujourd'hui à une couleur mal aimée, le vert. Posez la question autour de vous, vous serez étonné du nombre de personnes qui ne veulent absolument pas porter du vert. C'est bien sûr au départ que c'est une couleur bâtarde, c'est pas une couleur première, un mélange de jaune et de bleu, pas franchement repéré avant les latins, le mot « viderus » est repéré chez les latins alors que les grecs ne considéraient pas ça comme vraiment une couleur. C'est une couleur difficile, paraît-il, à fabriquer et à fixer sur les tissus. Cette instabilité lui a fait symboliser tout ce qui était fragile, l'enfance, les verts paradis des amours enfantines, n'est-ce pas ? L'amour, la chance, l'argent, comme pense au tapis vert. Le vert a souffert ensuite de son appropriation par l'islam, au point d'avoir été un temps la couleur du diable, à la fin du Moyen-Âge, enfin au début de l'islam, quoi. Et pourtant, le drapeau de France a failli être vert. Camille Desmoulins avait proposé une feuille de tilleul, je crois, symbole de liberté, et ça n'a pas été adopté parce que c'était la couleur de la maison d'Artois, de laquelle sera issu Charles X, roi réactionnaire. Donc on est passé au tricolore, plutôt. Il faut attendre le romantisme pour que le vert devienne le symbole de la nature. Et partant de la santé, les croix vertes, les pharmacies, et enfin, de nos jours, de l'écologie. C'est tout bonnement passionnant, et bien sûr, c'est bellement illustré d'un choix d'œuvre qui va des fresques médiévales aux albums de Babar. L'éléphant, pas le peintre montalbanais. Et c'est publié par Le Seuil, donc Michel Pastoureau, il sort d'une couleur, relié tout ça pour le prix de 39 euros.
Merci Philippe Bernadou. L'actualité des libraires, Hugues Dedis.
Alors on peut voir avec la complicité de la bouquinerie Beau Livre une exposition consacrée à Babar, à la Mémo, dans les sous-sols. Pas l'éléphant, oui, tout à fait. Babar, c'est Jacques, je ne sais plus son nom, c'est un surnom, en fin de compte, Babar, d'un peintre qu'on qualifie de peintre brut. Pas de brut de brutal, mais brut dans le sens art brut, c'est-à-dire d'art populaire. Babar est un sculpteur, un peu peintre, qui réalise avec beaucoup de bonheur des objets qui prennent une très belle dimension dans cette belle exposition disponible à la Mémo.
Jacques?
Oui, l'exposition proposée par Blandine Grock de sculptures, qui est dans le cadre d'Expo Nomade, se poursuit à la Femme Renard. Vous pouvez y trouver des sculptures de toutes dimensions. Et ça peut être des idées aussi de cadeaux pour Noël.
Les petits rappels des ouvrages présentés.
Alors Mud Woman, Mud, M-U-D, Woman, c'est la femme dans la boue en quelque sorte, de Joyce Carol Oates. C'est un livre que je vous recommande vivement et qui est publié chez Philippe Ray.
Et de Michel Pastoureau, Histoire d'une couleur, le vert, publié au Seuil.
Merci messieurs, on se donne rendez-vous à mardi prochain pour une nouvelle et ultime émission pour l'année 2013 des Voix de l'Alma, puisque nous serons le 24 décembre, veille de Noël. Je pense que vous viendrez donc avec des ouvrages à mettre sous le sapin.
Tout à fait.
D'ici là, le podcast de l'émission sur cfmradio.fr.
Et on peut retrouver toute l'actualité des librairies ainsi que leurs coups de cœur sur librairiemontauban.fr, librairie au pluriel.
Merci, au revoir.